franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, Elena Pasquinelli, spécialiste du cerveau, nous racontait l'effet Mozart. Les sciences dans ce domaine explosent, enfin, ça va crescendo là aussi. Et dans le sillage de ces recherches, justement, on voit apparaître beaucoup d'idées qui nourrissent notre imaginaire. Il y a énormément de fantasmes autour de la boîte
crânienne.
Rien
de plus normal, hein, chaque fois que la science entre en contact, la science de labo, entre guillemets, entre en contact avec la société, c'est ça qui m'intéresse en plus. Bah, il y a aussi des fantaisies qui se forment ou qui prennent corps sur le savoir scientifique, des fantaisies de vieille date qui trouvent dans la science une justification, ou cherche dans la science une justification. D'autres fois, c'est la science qui d'emblée crée ces mythes et on s'y attache et on a du mal à les lâcher. Je vous fais un exemple parce que je l'aime beaucoup, c'est le mythe de l'effet Mozart.
Ça vient
direct de la science. 93, on a un bel article qui paraît sur un journal très sérieux, Nature, et qui dit que suite à des expériences qu'on pourra éventuellement discuter, on a montré que après avoir écouté un morceau de Mozart, comparé à un autre morceau de musique ou à rien du tout, les personnes qui avaient immédiatement avant passé à des parties d'un test d'intelligence, de QI, ils s'améliorent après l'écoute de Mozart. Or, si 10 minutes de Mozart nous font devenir plus intelligents, c'est normal que ça nous intéresse. Effectivement, ça suscite un intérêt immédiat. Mais malheureusement, cet intérêt dépasse rapidement la communauté scientifique, il déborde dans les médias et on se retrouve aujourd'hui avec maintes CD, DVD, actions pour nous rendre plus intelligents avec la musique.
On nous vend même des bananes labellisées effet Mozart.
Et là, c'est la chose la plus amusante.
Des fruits et des légumes.
Exactement. Qui ne sont pas plus intelligents.
Non,
elles
mais
sont
qui sont meilleures.
Plus goûteux.
Elles sont meilleures. C'est déjà pas si mal.
Voilà, c'est déjà pas si mal. Donc, il y a le saké, il y a les vaches Mozart, les Mozart.
C'est
si
vrai.
On
a tout. On a eu les tomates.
On a tout. Et surtout, on les a une fois que cette nouvelle intéressante est démentie.
Oui.
Comme ça arrive très souvent.
Oui.
En science, on a un résultat.
Ça n'est pas reproduit.
Les scientifiques s'y arrangent et disent bon, d'accord, écoutez, c'était un résultat, mais il n'est pas réel.
Ce n'est pas un effet réel. Le public ne l'entend pas.
Le public ne l'entend pas et voilà naissance d'un mythe.
Mardi, l'astrophysicien Jean-François Bécart nous donnait l'adresse cosmologique de la Terre. Alors Jean-François Bécart, vous donnez l'adresse cosmologique justement de la Terre, mais ça c'est amusant parce que ça permet un peu de se représenter tout ça comme une poupée gigogne en partant de la Terre jusqu'au grand mur de galaxies, c'est ça ?
Voilà, clairement j'aime bien me situer comme vous pouvez voir entre mes immeubles. Et donc là, où sommes-nous effectivement ? Donc nous habitons sur une planète qui tourne autour d'une petite étoile jaune. Cette étoile se situe dans un des bras, qu'on appelle le bras d'Orion, dans notre galaxie, qui est la Voie lactée. Cette galaxie elle-même fait partie d'une petite tribu, appelons un chapelet d'îles, petite tribu qu'on appelle le groupe local, qui lui-même fait partie d'un groupe un peu plus gros qui s'appelle un amas, l'amas de la Vierge, qui lui-même fait partie d'un super amas de la Vierge. Ensuite, ça s'arrête. Il n'y a pas de super amas. Par contre, ce qu'on peut voir, et c'est un peu l'échelle de la gravité. À partir de là, à partir des super amas, la gravité cesse d'être dominante. Après commence l'énergie noire. Et les super amas, par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils font des traînées. Ils se suivent, ça tire plus, mais il y a des traînées de gaz entre eux. Et ça forme ce qu'on appelle des filaments. Et parfois aussi ce qu'on appelle, quand ils sont un peu plats de manière visible, qu'on appelle des grands murs de galaxies. Typiquement, un des grands murs les plus proches, découvert en 1989, s'appelle le Grand Mur de Galaxies.
Oui.
Ceci environ 200 millions d'années-lumière. Il est composé d'environ une trentaine de milliers de galaxies.
Mercredi, la pédiatre Marie Thirion nous racontait les mécanismes de la faim et de la satiété.
Le premier mécanisme, c'est le cerveau qui dialogue, qui discute avec le tube digestif. C'est-à-dire qu'il va envoyer un signal « Et si tu allais manger maintenant ?» Il est temps d'y aller.
Mmh.
Alors, un peu pour des besoins énergétiques, beaucoup pour d'autres raisons, comme on vient de le voir, des raisons d'habitude. Et à ce moment-là, il y a les deux signaux que je viens de vous citer, la salivation et la gréline. Dès que l'aliment rentre dans l'estomac, l'estomac va réagir instantanément par un flash, mais vraiment un flash, un éclair, très court, d'une autre hormone qui s'appelle la leptine, qui, elle aussi, va directement au cerveau. Elle peut passer la barrière hémato-encéphalique et qui va informer le cerveau, ça y est, ça rentre. Pour l'instant, c'est non sélectif. Et puis après, tout au long du tube digestif, il va y avoir une série de circuits hormonaux qui vont envoyer des messages au cerveau. D'abord, l'aliment en rentrant, la glycémie va monter tout de suite. Et si la glycémie monte, le cerveau va savoir que le sucre arrive et que le sucre monte. Ensuite, comme le sucre monte, le pancréas va réagir. Il va envoyer de l'insuline. Le cerveau va capter ce signal que l'insuline a augmenté. Donc, on sait que des sucres sont arrivés et que le corps est prêt à le gérer. L'insuline, c'est fait pour ça. Après, un peu plus bas, au niveau du duodénum, vous avez la cholécystokinine qui, elle, va être sécrétée. Bon, elle agit à d'autres niveaux, en particulier cérébral. Mais là, je vous parle du dialogue tube digestif. Elle va être sécrétée en pourcentage des graisses qui arrivent, et en particulier des bonnes graisses. Elle va dire, oh, il y a des bonnes graisses qui passent. Vous savez, les oméga 3, les longues chaînes, etc. Donc, il y a des graisses qui passent. Et puis après la digestion, quand les aliments, les protidiques, sont réduits en acides aminés, ils vont être captés par la veine porte pour aller vers le foie, puisque c'est le foie qui récupère tout ça. Et dans la veine porte, il y a encore des petits récepteurs opioïdes qui vont dire « Oh, j'ai vu passer des protéines, j'ai vu passer des peptides protidiques. » Donc, le cerveau sait que tout est passé.
Donc, il y a ces éléments en cascade sont enclenchés. Et donc, à la fin, au fond, il y a un signal qui nous dit « Ça y est, on a assez mangé, on a le stock nécessaire pour assurer nos besoins. »
À la fin, le cerveau va dire « C'était bien comme d'habitude. Il y avait ce qu'il fallait en qualité, il y avait ce qu'il fallait en quantité, donc je suis content. »
Et puis jeudi, le linguiste Nicolas Tournadre nous parlait de la disparition des langues.
Nicolas Tournadre, qu'est-ce que l'on perd vraiment lorsqu'une langue disparaît ?
Ben on perd d'abord, je dirais, un chant, puisque les langues, c'est d'abord une mélodie, un rythme, c'est des sons. On perd aussi un classement du monde, une certaine structuration du savoir avec le vocabulaire qui est structuré différemment. Et on perd des habitudes liées à la cognition, des habitudes liées à la mémoire, à l'attention, à la perception qui apparaissent dans certaines langues grammaticalisées. Dans la grammaire même des langues, elle nous force à faire attention à certaines choses. Ça, on le perd. Et puis, en fait, bien sûr, on perd tout un savoir culturel, connaissance du monde, des mythes, de la médecine traditionnelle, de la pharmacopée, des proverbes, des récits, etc. Et je dirais qu'on le perd très vite. Il suffit que les gens décident de ne plus parler. Et en deux générations, ça peut être perdu. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de langues de régions du monde où les grands-parents ne peuvent pas parler avec leurs petits-enfants. Et là, en Chine, par exemple, où j'étais, c'est le cas.
Vieron demande combien de langues disparaissent. Est-ce qu'on arrive à le chiffrer véritablement ?
Pour moi, l'accélération est énorme. C'est-à-dire que j'avais déjà une impression d'une disparition, disons, assez rapide. Mais là, dans ma génération, ça a été extrêmement rapide. Et là, avec la construction des routes, avec le tourisme de masse qui fait déplacer des millions de personnes devant des communautés qui font 1000 personnes, 10 000 personnes, avec les barrages qui déplacent des villages entiers, et là c'est vrai pour l'Inde, la Chine, c'est vrai pour plein de pays, l'Amazonie, avec les problèmes de réchauffement climatique où des îles entières sont évacuées, ça c'est dans le Pacifique, eh bien l'accélération de la disparition est bien plus grande, ce qui fait que je pense qu'on va arriver à des prédictions qui sont bien, comment dire, bien pires. C'est pas la moitié des 6500 langues, c'est encore plus qui va disparaître dans moins de 100 ans.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast ou sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.